Chapitre 10. Jamais semaine sainte ne s'était annoncée au cloître plus triste. Cette loi des associations, à la réalité de laquelle aucun moine ne croyait, venait d'être votée par les députés. Et à l'optimisme le plus résolu avait succédé le pessimisme le plus noir. À part quelques éberlués qui se raccrochaient à l'espoir que le président du Conseil les sauverait au dernier moment, en faisant échouer la loi au Sénat, et que M. Loubet, homme pieux, donnerait sa démission plutôt que de perdre son âme, les autres convenaient que les séniles matassins du Luxembourg ne valaient pas mieux que les pernicieuses malbêtes de la Chambre. Tous étaient les leudes perdiablés des loges, il n'y avait rien de propre à attendre d'eux. Le père abbé, revenu de voyage, avait recueilli dans ses courses les bruits les plus alarmants sur le sort des congrégations en France. Il ne soufflait mot, mais la tristesse de son regard et l'ardeur de ses prières en disaient long. Enfin, il est impossible que les oraisons dont les communautés assaillent sans relâche le ciel soient repoussées par notre Seigneur, pensaient les novices. Il faut redoubler de zèle, et tous se privaient de quelque chose, se levait plus tôt, se mortifiait pour détourner le coup. Depuis quelques semaines déjà, sur l'ordre du père abbé, après tierce et avant la grand-messe de 9 heures, tous les religieux chantaient à genoux le psaume « Levavi oculos meos in montes », le « Sob tuum » et la prière à Saint-Michel. Et le découragement prenait de voir tant de suppliques préservatrices demeurer vaines. Durtal, qui avait toujours été frappé du caractère démoniaque si marqué de l'affaire Dreyfus, et qui ne la considérait que comme un tremplin installé par les Juifs et les protestants pour mieux bondir à la gorge de l'Église et l'étrangler, Durtal avait perdu depuis longtemps tout espoir. Et cependant, lorsque la loi fut adoptée par le Parlement, il eut le petit tressaut d'un homme qui se trouve subitement en face d'un danger qu'il croyait moins proche. « Quand on songe, disait-il à Madame Bavoil, que quelques gueux, élus Dieu sait comment, à l'aide de quelle manigance, dans quel bas-fond, vont crucifier l'épouse ainsi que les Juifs ont naguère crucifié l'époux. C'est la passion de l'Église qui commence, rien n'y manque. Tout y est, depuis les clameurs et les blasphèmes des galopes-chopines de l'extrême gauche, jusqu'à cet ancien élève des jésuites, ce Judas qui a nom Trouillot, jusqu'à ce nouveau Pilate qu'est Loubet. Ah, celui-là, il allait régulièrement à la messe en cachette tous les dimanches à la Sorbonne, alors qu'il gîtait dans le clapier soupçonneux du Sénat. Et il a signé la loi, et il s'en lave les mains. Je serais vraiment curieux de savoir quel est le sacerdoce qui ose l'absoudre quand il se confesse pour faire ses Pâques. Que peut-il bien raconter au Seigneur, ce monsieur Loubet, lorsqu'il le prie ? Demanda Madame Bavoil. Eh bien, mais il lui demande de lui conserver sa place, d'aider à la parturition de ses bonnes valeurs. Il le supplie de protéger ses enfants, afin qu'ils deviennent d'intrépides chrétiens tels que lui. Comme il n'entretient pas de danseuse, il se juge un honnête homme, car il est probablement pareil à la majorité des catholiques, pour laquelle seul le péché de la chair compte. D'autre part, il s'estime peut-être charitable, car il a sauvé de la prison les tranquilles fripouilles du Panama. Sa conscience est donc sans scrupule, sans reproche, et il vit, honoré par les siens, en paix. Il se dédouble du reste, car s'il reconnaît à Dieu le droit de s'occuper de l'homme privé, il estime que l'autre, l'homme politique, est à part et ne le regarde pas. N'est-il point d'ailleurs une simple machine à écrire? On appuie sur les touches et le mot « Loubet » se forme. Si le Christ n'est pas content, ce n'est pas à lui, mais à Trouillot, à Mony, à Millerand, à Valdec-Rousseau qu'il devra s'en prendre, car ce sont eux qui manipulent le clavier et tracent en bas des décrets son nom. Puis, une fois cette besogne terminée, ce père de famille, qui interdit aux pauvres de donner à leurs enfants une éducation religieuse, appelle le curé de Saint-Philippe-du-Roule. lequel dit tous les dimanches la messe à l'Élysée, pour lui recommander de bien enseigner à sa progéniture le catéchisme. Et il palpe, avec une certaine fierté, le chapelet de luxe que sa sainteté le pape a offert, en récompense sans doute de ses vertus, à cette autre excellente catholique qu'est madame sa femme. Mais, notre ami, c'est le portrait tout craché du pharisien que notre Seigneur a tant honni que vous nous dessinez là. Avec ressemblance garantie, j'en ai peur, madame Bavoile. Enfin, tout n'est pas désespéré. Rome peut encore intervenir. Pourquoi faire? Aucun pape n'a plus que Léon XIII aimé la France. Harcelé, il faut bien le dire, par les catholiques qui, dénués de toute initiative, lui réclamaient, à propos de n'importe quoi, des instructions, il a cru nous rendre service en s'immisçant dans nos affaires. Et mal renseigné et certainement trompé sur l'état de notre pays, il s'est imaginé qu'il apprivoiserait ce volatile, matinée de vautours et d'oies, qu'est la République des Juifs et des athées. Hélas, elle a percé à coups de bec les mains qu'il tendait pour la caresser. Il ne s'est néanmoins pas découragé. Il a disputé, pied à pied, les quelques libertés religieuses demeurées intactes, et il a subi, en échange, des nominations d'évêques indignes, des injures et des menaces. Naturellement, plus il se montrait paternel et plus l'ennemi devenait arrogant. Cela nous a menés à la loi des congrégations. Il a tenté alors un dernier effort, en laissant entendre que si l'on touchait aux ordres, il retirerait le protectorat des œuvres de l'Orient à la France. Cette fois, on lui a épargné les coups de bec. C'étaient des blessures encore trop nobles, et les satrapes de barrières qui nous régissent se sont contentés de le narguer en lui piquant ce qu'on appelle, dans l'argot du peuple, une méduse. Et, attristé, appréhendant d'envenimer les choses, il a gardé le silence. Que voulez-vous qu'il essaie dorénavant? Il ne peut plus réagir. Il est trop tard. Certes, si quelqu'un est à plaindre, dit madame Bavoile, c'est bien ce vieillard dont les affectueuses intentions n'ont été récompensées que par des moqueries et des outrages. Je me figure cependant, reprit Durtal, que de plus amples douleurs ont encore supplicié la vie de notre père. Il en est en tout cas une qui a dû être pour lui la dernière goutte du calice à boire. L'on n'en connaît vraiment pas de plus amer. La papauté pouvait, devait jouer un rôle magnifique à notre époque, et Léon XIII était certainement prêt à assumer la responsabilité d'un tel geste dans l'histoire. Et des événements qu'il dut subir et que nous ignorons brisèrent sa volonté, le rejetèrent épuisé dans l'ombre. Alors, en effet, que cette Europe en pourriture, coalisée contre la miséricorde et l'équité, à plat ventre devant la force, regardait en souriant les massacres des Arméniens et les brigandages des Anglais au Transvaal, un seul homme pouvait se dresser, imposant par sa majesté et son âge, le pape, et leur dire à tous « Je parle au nom du Seigneur que vous crucifiez par votre lâcheté. Vous êtes les adorateurs de la vache à cola et du veau d'or. Vous êtes les Caïns des peuples. » Cela n'eût servi à rien. Au point de vue politique, c'est possible, mais au point de vue moral, c'était immense. Cela prouvait qu'il subsistait encore une justice ici-bas. Rome fulgurait comme un phare allumé dans cette nuit qui envahit le monde, et les peuples en désarroi eussent pu au moins se tourner de ce côté et croire que le représentant du Christ sur la terre était avec eux, pour eux, contre les gredins couronnés et les démagogues. Pour des motifs évidemment péremptoires, sa sainteté, qui a dû pleurer des larmes de sang de ce mutisme obligé, s'est tue. Ah, le pauvre pape! Le fait est, dit madame Bavoile, que l'existence de Léon XIII, interné dans le Vatican, spolié d'un pouvoir temporel auquel il a droit, n'est depuis de longues années qu'un calvaire. Hélas, pour en revenir maintenant aux épreuves que lui inflige celle de ses filles qu'il aime le plus, la France, que va-t-il décider? Aujourd'hui que la partie qu'il a jouée contre les francs-maçons est perdue et que le pillage de son patrimoine spirituel s'annonce, va-t-il se redresser et, en un réveil foudroyant, frapper d'excommunication Retranchés de l'Église, voués à la malédiction jusqu'en leurs derniers descendants, Loubet, Waldeck-Rousseau, Trouillot, Mauny, tous les députés qui ont voté la loi et tous les sénateurs qui la voteront, ce serait tout de même un soulagement pour ces malheureux catholiques qui se voient lâchés par leurs chefs dans les grandes largeurs. Et je vous assure que les interdire irait moins qu'on ne pense de ce châtiment, car ce sont sur les familles, nominativement désignées dans les bulles, des amas de maux que ces anathèmes fulminés attirent. Le souverain pontife les déchaînera-t-il? J'en doute. Il pardonnera et il aura évangéliquement raison. Seulement, où toutes ces défaites résignées nous mènent-elles? Ah! S'écria madame Bavoile en secouant la tête. Laissons ces désolantes histoires. Ne songeons qu'à Jésus que l'on va crucifier. L'heure des ténèbres est proche, allons le consoler. En supposant que nous en soyons dignes, dit Durtal, qui mit son chapeau et enfila son caban. Une fois installé dans l'église, il oublia les tristesses de l'heure présente. La divine liturgie l'enlevait, planant si haut, loin de nos bouts. Et il embrassait d'un coup d'œil le panorama de la terrible semaine, de la semaine peineuse telle que la qualifierait le Moyen-Âge. Avant de gravir ces jours qui conduisaient en de brèves étapes au sommet du Golgotha, au pied même du gibet, l'Église montrait, dans l'Évangile de la Passion, le Fils de Dieu réduit à s'enfuir et à se cacher, afin de n'être pas lapidé par les pharisiens. Et pour exprimer cette humiliation, elle couvrait de voiles de couleur violette ses statues et ses croix. Une semaine s'écoulait encore, et soudain, pendant quelques instants, sa détresse s'interrompait à la fête des palmes. La veille même, l'épître de la messe énonçait les épouvantables malédictions que proférait Jérémie, cette préfigure du Christ contre les Juifs. Et le lendemain, en de magnifiques offices, au cri de l'Hosanna, au chant triomphal du Gloria Laus, Jésus s'avançait, monté sur le petit de la naisse prédit par Zacharie, et il entrait, assourdi par les vivats du peuple, dans cette Jérusalem qui devait, quelques jours après, dans des clameurs de rage, le trucider. Et dès que la marche glorieuse était avec la procession des rameaux finie, l'angoisse du Christ et de son Église reprenait aussitôt avec la messe pour ne plus cesser qu'avec les Pâques. Déjà la lecture de la Passion commençait avec saint Matthieu, pour continuer le mardi avec saint Marc, le mercredi avec saint Luc, le vendredi avec saint Jean. Et, en les entendant, Durtal jaillissait, transporté hors de lui-même par ce chant étrange et pénétrant. C'était une sorte de mélopée courant dans le récit, revenant avec des retours flottants de ritournelle. Ce chant était monotone et angoissant, et presque câlin aussi. Et cette impression de bercement et de peine, on l'éprouvait également pendant les lamentations de ténèbres, chantées sur quelques tons à peine, variant avec les points d'interrogation, les arrêts du texte. Ces cantilènes avait dû être recueilli en partie dans les plus anciens antiphones du peuple juif. Le courant gréco-romain auquel la paléographie de Solesm rattache l'origine du plein chant se faisait moins sentir que le courant hébraïque en ces mélopées qui rappelaient, dans le chant des lettres, avec leur côté languide et cadencé, les mélodies à la fois ingénues et subtiles de l'Orient. Elle remontait certainement, en tout cas, à la plus haute antiquité, et les réparations que leur trame avait subies au XVIIe siècle et depuis n'en avaient altéré ni la couleur ni les contours. Elles étaient merveilleusement assorties aux offices qui, eux aussi, dataient des premiers âges de l'Église, peut-être même de l'Église de Jérusalem au IVe siècle. Et ces jours luctueux étaient admirables au Val des Saints. Chaussés de sourdes pantoufles, les moines que n'annonçait plus le son des cloches entraient tels que des ombres, et ils soulevaient en passant, avec leurs grandes coules noires, au vent froid qui soufflait l'odeur de cave des murs salpêtrés et des dalles, et les petites heures défilaient à la queue leu-leu, avant la messe, tombant, goutte à goutte, sans le Deus in adjutorium qui d'habitude les précède, sans le Gloria qui les sépare et les suit. Et, à la fin de chaque office, l'on récitait le Miserere sur un ton lugubre jusqu'au dernier mot, Vitulos, jeté alors en l'air, ainsi qu'une pelletée de terre sur une tombe. Dans l'église à peine éclairée, avec les croix enfermées dans des losanges, le triangle fumant des cires, le bêlement d'agneau des lettres hébraïques chantées au commencement de chacune des lamentations de Jérémie, c'était navrant. L'abbé, mitré, crossé, en ornement violet, procédait le jeudi au mandatum, laver les pieds de ses convers. Et le vendredi, après l'adoration de la croix et les funèbres impropères, coupés comme des refrains par les apostrophes implorantes du trisagion, il allait, vêtu d'une chasuble noire et mitrée de blanc, sans bougeoir et sans crosse, prendre le pain consacré au reposoir. Et tous les moines à genoux, sur deux rangs, tenaient des cierges sombres allumés, et les éteignaient aussitôt après que l'abbé avait consommé les espèces saintes. L'office monastique de la semaine ne différait pas de l'office romain. Seulement, il n'existait pas d'église, même cathédrale, où on le célébrât avec une pareille ampleur. Malheureusement, s'il avait été au Val des Saints, magnifique jusqu'au matin du samedi, ce jour-là, tout se gâta. Par suite d'un compromis entre l'abbaye et le presbytère, il avait été convenu que les religieux occuperaient l'église le dimanche de Pâques, mais que l'honneur de bénir l'eau baptismale, le samedi, reviendrait au curé. Il opérait donc, entouré de toute la communauté qui le servait, et il savait à peine son métier et mêlait la prononciation française de son latin à la prononciation italienne des pères. Pour des gens habitués de longue date à entendre les « hum » prononcés « hum » et les « us » prononcés « us », les « ur » prononcés « our », les « j » devenus « y », pour les gens accoutumés au chuintement du « c » qui mue, par exemple, le mot « tchuelum » ou celui de « tchuelum », le latin à la française était devenu un peu embarrassant. Il eût été néanmoins supportable seul, mais mélangé à l'autre manière de le proférer, il tournait à la cacophonie. Il semblait que les curés et les bénédictins ne parlassent pas la même langue. Et ce tohu-bohu se répercutait dans le chant grégorien que le curé chantait, non d'après les textes de Solesme, mais ainsi qu'au séminaire, et Dieu sait comme. Tout le monde avait hâte que cette cérémonie, devenue ridicule, cessât. Heureusement que la splendeur de la messe avait compensé la misère de cet office, si merveilleux lorsqu'il est bien exécuté par des moines en plein chant. Après l'épître courte de saint Paul, le sous-diacre se présenta devant l'abbé debout au trône et lui annonça la résurrection de l'Alléluia. Et l'abbé le chantait, joyeux de la bonne nouvelle, par trois fois, et trois fois le cœur répondait un Alléluia encore un peu timide, hésitant à prendre son vol. Puis, après le credo, à l'offertoire, on amenait jusqu'à la barre de communion l'agneau pascal, paré de rubans et de fleurs. La pauvre bête que tirait le père hôtelier et que poussait par derrière le père cuisinier regimbait. Elle regardait défiante, cherchant à fuir cet homme vêtu d'or qui s'avançait du fond du cœur, escorté d'une nombreuse suite, pour prier au-dessus d'elle et la bénir. Elle semblait avoir le pressentiment que tant de déférence pour sa pauvre personne finirait mal. Ce samedi saint était, le matin, interminable. Commencé à 8 heures, l'office s'achevait à peine vers les midis. Mais Durtal était heureux. Il quittait les rangs liturgiques quand la cérémonie s'alentissait et il s'évaguait, seul, errant sur les traces de Jésus et de sa mère. Oui, certes, se disait-il, songeant à la Vierge, sur laquelle, dans cette période de larmes, les Écritures sont si brèves, oui, certes, le moment où elle se tint au pied du calvaire fut atroce. La transfixion prédite par le vieillard Siméon se réalisait, mais le glaive de douleur ne s'enfonçant pas dans sa poitrine d'un coup. Il tâtonna d'abord, et il y eut dans les souffrances de Marie Un instant qui dut être particulièrement affreux, celui de l'attente, du temps qui s'écoula entre l'arrestation et la condamnation de son fils. Ce fut alors l'entrée de la pointe perçant la chair, s'y remuant, évasant la plaie, sans plus y pénétrer. Cette attente a duré 11 heures. Jésus a été en effet arrêté et ramené à Jérusalem le jeudi soir vers 11 heures. Le vendredi, il a été traîné d'âne à Caïphe, de minuit à 2 heures du matin, conduit chez Pilate vers 6 heures, transféré chez Hérode à 7 heures, bafoué, flagellé, couronné d'épines, condamné à mort de 8 à 10. La Sainte Vierge savait que Jésus devait périr. Elle-même avait consenti à sa mort, et elle l'eût même sacrifié de ses propres mains, dit saint Antonin, si le salut du monde l'eût exigé. Mais elle n'en était pas moins femme. Elle eut toutes les vertus à un degré héroïque. Elle posséda les dons les plus parfaits de l'esprit. Elle fut la plus sainte des vierges. Elle fut unique, mais elle n'était pas déesse, elle n'était pas Dieu. Elle ne pouvait pas échapper à sa condition de créature humaine, et par conséquent ne pouvait s'empêcher d'être torturée par les anxiétés de l'attente. L'eût-elle pu d'ailleurs qu'elle eût imité son fils qui mit en quelque sorte en suspens sa divinité sur la croix pour mieux pâtir, et qu'elle eût demandé et obtenu de s'infliger l'âpre tourment des expectatives déçues. Ce que furent ces heures d'attente, on se l'imagine mal. Génitrice d'un Dieu, fille et épouse du Seigneur et sœur des hommes dont elle devait devenir aussi la mère, une mère enfantée au pied d'un gibet dans des flots de sang, elle greffait les unes sur les autres toutes les douleurs des parentèles. Mais elle pleurait surtout la perversité de cette race abominable dont elle était issue et qui allait réclamer, en un baptême de malédiction, que le sang du Sauveur retombât sur elle. Voulant souffrir tout ce qu'elle pouvait souffrir, elle dut espérer contre tout espoir, se demander dans l'excès de son angoisse si au dernier moment ses scélérats n'épargneraient pas son fils, si Dieu, par un miracle inattendu, n'opérerait pas la rédemption du monde, sans infliger à son Verbe les tortures horribles de la croix. Elle se rappela sans doute qu'après son consentement, Abraham fut délivré de l'effroyable tâche d'égorger son fils, et peut-être espéra-t-elle que, de même qu'Isaac, sa préfigure, Jésus serait délié lui aussi au dernier moment et sauvé du sacrifice. Et ces pensées sont naturelles si l'on songe que Marie savait ce qu'il était opportun qu'elle sût, mais qu'elle ne savait pas tout. Elle connut par exemple le mystère de l'incarnation, mais elle en ignora le temps, le lieu et l'heure. Elle ignora avant la visite de l'ange Gabriel qu'elle était la femme choisie de toute éternité, celle dont le Messie naîtrait. Et, humble, telle qu'elle était, ne cherchant point à pénétrer les secrets du Très-Haut, elle put aisément se leurrer. Que se passa-t-il pendant ces heures sur lesquelles les évangiles se taisent? Lorsqu'elle apprit que le Sauveur était arrêté, raconte Ludolphe le Chartreux, elle s'élança avec Magdeleine à sa poursuite, et dès qu'elle l'eut retrouvé, elle s'attacha à ses pas et ne le quitta plus. La sœur Emmerich confirme, de son côté, ses courses de la Vierge, et elle entre dans de nombreux détails, un peu confus, sur les allées et venues de Marie, qui, selon elle, était non seulement accompagnée de Magdeleine, mais encore de la petite troupe des saintes femmes. Elle la montre, suivant à distance les soldats qui entourent Jésus, et s'évanouissant lorsqu'elle s'assure que l'arrestation est maintenue. Elle nous narre qu'on la transporta dans la maison de Marie, mère de Marc, et que ce fut l'apôtre Jean qui la renseigna sur les brutalités commises par les goujats du corps de garde pendant la route. Elle relate que ce fut également lui qui s'échappa de chez Caïphe pour la prévenir, tandis que le pauvre Pierre, affolé, mentait. Elle ne tenait pas en place, dit la visionnaire. Elle sortit de nouveau et rencontra près de la demeure de Caïphe Pierre, auquel elle dit : « Simon, où est mon fils ? » Il se détourna sans répondre. Elle insista, et alors il s'écria. « Mère, ne me parlez pas. Ce que souffre votre fils est indicible. Ils l'ont condamné à mort, et moi, je l'ai renié. » Et, l'âme déchirée, elle parcourut sans repos ni trêve la voie des supplices, jusqu'au moment où saint Jean l'expose alors au pied du calvaire, le cœur définitivement percé par les sept glaives des péchés capitaux, les glaives enfoncés sept fois jusqu'à la garde. En se remémorant ce lamentable récit, Durtal revenait toujours à cette première idée. Avant de pénétrer franchement dans la chair et d'y rester fixé, quelle torture ces implacables épées n'infligèrent-elles pas à Notre-Dame des sept douleurs, en tournant dans les blessures, en attisant en quelque sorte le feu des plaies, avec ses sautes de désespérance et d'espoir, et quel sujet de méditation que l'acuité de ces transes dans la vie si parfaitement inconnue de notre mère. Et Durtal gémissait avec elle, lorsqu'à la deuxième leçon du nocturne du Vendredi Saint, la voix douce et claire du petit frère Blanche, debout au milieu du chœur, devant le pupitre, chantait, ainsi qu'en un bêlement prolongé et plaintif, la lettre hébraïque même, et poursuivait sur un rythme d'odelineur et dolent la leçon du prophète. « À qui te comparais-je? À qui dirais-je que tu ressembles, refille de Jérusalem? Où trouverais-je quelque chose d'égal à tes mots? Et comment pourrais-je te consoler, ô vierge fille de Sion? Ta blessure est large comme la mer, qui pourra y appliquer le remède ?» Le remède, soupira Durtal, à la place de l'huile et du vin, avec lesquels le bon samaritain pensait naguère les plaies, c'est avec de l'eau régale et du vitriol que les modernes pharisiens penseraient ses plaies à elle s'ils la détenaient. Depuis des siècles, la Vierge a plus spécialement élu domicile en France, car nulle part, en aucun autre pays, elle n'a distribué autant de grâces. Nulle part, elle ne s'est attestée ainsi qu'à l'heure présente par de continuels miracles, comme à Lourdes, et de même que dans la Palestine, les injures pleuvent sur elle, et la persécution sévit contre les siens. La France a inventé le moyen de faire, pour la Madone, du calendrier liturgique, une éternelle semaine sainte. Ses pensées l'obsédaient. Au fond, pour dire toute la vérité, la semaine peineuse était celle qui convenait le mieux à ses aspirations et à ses goûts. Il ne voyait bien notre Seigneur qu'en croix et la Vierge en larmes. La Pietà surgissait devant lui avant la crèche. Ainsi sortait-il de ses longs offices de la grande semaine, accablé mais heureux. Il se sentait si bien en communion avec l'Église et il avait si bien prié. Et il lui fallait un effort pour se substituer à un état d'âme différent avec la Pâque, pour s'associer au transport des Alléluia fusant joyeux sous les voûtes, au gai carillon des cloches balançant les grappes de novices pendues à leurs cordes. Et pourtant, quelle magnifique fête que celle de la résurrection! Quelle atmosphère de jubilation emplissait l'église! Elle était tendue de velours rouge, couverte de fleurs, et les reliquaires réverbéraient, ainsi que des miroirs de verre et d'or, les lancettes en feu des cierges. La messe pontificale était aussi pompeuse que celle de Noël, avec les cérémonières aux noirs capuchons retombant sur leurs blancs surplis, avec le porte-crosse, le porte-mitre, le porte-bougeoir, le porte-queue. Elle s'épanouissait après la procession, dès l'introïte, où le Christ célèbre sa résurrection, par la voix prophétique du psalmiste et les touffes de prières qui s'élevaient du cœur, même les suppliques implorantes, telles que le Kyrie, se paraient en signe de fête d'astragale, se gaudissaient avec la séquence si enthousiaste, si candide, du victima patchali laudes, s'affirmaient vraiment triomphales avec cet Alléluia, si délibéré, si fier, qui suit l'ité mista est, et reprend après le Deo Gratias de la fin. Et pour que la suprématie de cet office fût complète, les antiennes des vêpres étaient exquises, et l'on avait, au salut, adjoint en l'honneur de la Vierge, en sut des prières marquées, après la complainte campagnarde et bout en train qu'est l'eau filiée et filiae, une ancienne prose, le Salvé Mater Miséricordiae, extraite du recueil des variés prêtresses, qu'il avait emprunté à l'ancien bréviaire des Carmélites, une prose à refrain dont les strophes se déroulaient sur une mélodie populaire. Ce fut une journée d'ivresse musicale, une orgie d'allégresse liturgique. Durtal n'avait pas quitté l'église et le monastère depuis le matin, et il avait mangé avec les religieux, M. Lempre et le curé, l'agneau pascal. Lesdits agneaux avaient été servis en entier sur une table, et il se convulsait les pattes en l'air, la gueule béante, exhibant ses rangées de dents et tirant une langue noire. Enveloppé de grands tabliers, le père Sellerier et le père Ramondou, armés d'énormes couteaux, le dépecèrent. Et Durtal eut vraiment un moment d'hilarité. Les petits novices qui ne mangeaient plus à leur faim depuis le commencement du carême se délectaient, encore que cet agneau eût les chairs en corde à violon d'un vieux bélier. Les angelots baffraient comme des ogres, et les vieux moines engloutissaient furieusement les quartiers récalcitrants de la bête. Le fait est, songea Durtal, qui regardait le petit Gèdre et le frère Blanche, le fait est que les pauvres gosses n'ont pas goûté à une miette de viande depuis 40 jours, et qu'on leur a mesuré le pain, juste ce qu'il fallait pour ne pas défaillir, et ce n'est pas avec des épinards et des betteraves à la sauce blanche que l'on soutient des enfants levés dès l'aube et debout jusqu'au soir. Et moi-même, dont l'abstinence fut presque aussi rigoureuse, car faute de poisson au Val des Saints, j'ai dû me contenter, les jours où les œufs étaient interdits, de légumes, je me sens débilité, l'estomac en charpie, et je ne suis pas fâché d'attaquer à mon tour le gigot de ce mouton rebelle, et je suis plus satisfait encore de reprendre mes habitudes, de retrouver mes vêpres remises à 4 heures, c'est-à-dire à 1 heure facile, au lieu de ces 11 heures et demie qui me laissaient 1 heure inoccupée que je ne savais pas à quoi employer, après la messe terminée à 10 heures. Il me fallait en attendant remonter chez moi, ou traîner dans le village. Nous rentrons enfin dans la norme à partir d'aujourd'hui. Alléluia. Et, après le dîner, quand, au retour de la chapelle, il fut réuni dans la salle des hôtes pour boire le café, avec le père abbé, don de Fauneuve, don Feltin, don Badol, le curé et son ami M. Lempre, Durtal se sentit débordé par un bien-être dont il eût été incapable d'analyser les causes. Elles étaient, à vrai dire, multiples. Il y avait l'entrain agissant d'un cloître possédé par cette joie liturgique qui se déversait depuis le matin dans les offices. Il y avait la satisfaction d'un homme libéré d'exercices incommodes et de repas pénibles. Il y avait enfin l'enjouement de la température qui devenait, au sortir des frimas, clémente, car la nature ressuscitait avec le Christ. Il faisait presque doux. Durtal s'était promené, avant la messe, dans son jardin. La petite allée du bois était tapissée de violettes. Les bourgeons des marronniers jaillissaient, en pointe d'un brun gommé, des franches encore noires. Les arbres fruitiers étaient en fleurs, et les cerisiers et les pêchers étaient saupoudrés, les uns d'une neige blanche et les autres d'une neige rose. Après les nudités sinistres de l'hiver, et la fatigue des prières absorbées à dose massive pendant la semaine, c'était en effet un immense allègement que celui de ce printemps et de cette Pâque. Et cette impression tous l'éprouvaient, jusqu'au curé qui se trémoussait, les jambes en l'air, devant la cheminée, où un reste de fagot brûlait. Et subitement, sur un mot du père abbé, devenu soucieux, toute gaieté tomba. Après l'entretien obligatoire des convives sur la beauté de la cérémonie et l'ampleur des chants, l'abbé, s'adressant à M. Lempre et à Durtal, avait cité les paroles de l'évangile de saint Luc. « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Et, tout le monde écoutant, il avait ajouté « L'an prochain, à pareille heure, où serons-nous? Avec qui mangerons-nous l'agneau pascal? Ô père, dit Durtal, êtes-vous donc décidé à nous quitter?
Décidé? Je ne puis rien décider encore. Il faut d'abord attendre que la loi soit votée par le Sénat. C'est une affaire de quelques mois. Puis il sied aussi de connaître, avant d'adopter une résolution, le sens des instructions que le pape nous adressera.
Et s'il ne vous en envoie pas, fit M. Lampre, ou plutôt s'il ne vous en envoie que d'imprécises et de vagues, laissant à chacun le soin de se débrouiller à sa guise, et entre nous, il ne peut vous en formuler de clair et de ferme, car les intérêts des instituts diffèrent, et la solution qui convient à l'un serait nuisible à l'autre. Comment agirez-vous?
Dans ce cas, nous nous réunirons, tous les abbés de l'ordre, à notre maison mère de Solesmes, et nous arrêterons la ligne de conduite à suivre.
Et elle est tracée d'avance, dit le père de Fauneuve, car nous ne pouvons nous soumettre à une loi qui viole manifestement le droit supérieur de l'Église et le principe même de la vie religieuse. Accepter les prescriptions de ce texte sacrilège serait de notre part une forfaiture. Et, en effet, les ordres à vœux solennels tels que le nôtre jouissent du privilège de l'exemption à l'égard de l'ordinaire, et la loi édicte absolument le contraire, puisqu'elle veut nous placer sous la juridiction des évêques. Or, ce droit d'exemption a été déterminé par le concile écuménique de Trente et par les constitutions apostoliques qui n'ont fait que confirmer les décrets du concile. Et il n'appartient ni au gouvernement ni à l'évêque d'y rien changer. Ils n'ont ni à approuver ni à désapprouver les statuts des ordres religieux, du moment que le Saint-Père les a revêtus de son approbation souveraine. C'est donc là un empiétement intolérable du pouvoir civil sur les prérogatives du Saint-Siège, et c'est en même temps aussi la négation de la vie monastique, puisque le firmament de ces impies se refuse à reconnaître les vœux solennels qui en sont la base.
« Voyez-vous, s'écria Don Feltin, Monseigneur Trioro se substituant à Saint Benoît, et, si nous consentions à lui remettre notre règle, supprimant les articles qui lui déplaisent ou y introduisant des ordonnances de son cru ?»«
Sans compter, dit M. Lampre, qu'un autre évêque, dans un autre diocèse où se trouverait une autre abbaye bénédictine, pratiquerait tout le contraire. Celui-là bifferait les clauses conservées par son confrère et en inventerait de nouvelles à son tour. Quel gâchis ce serait !»«
Ajoutons, reprit Don de Fauneuve, qu'il faudrait être singulièrement naïf pour se plier aux exigences de cette loi et déposer, avec la demande d'autorisation, un état des recettes et dépenses et un état inventorié des biens, meubles et immeubles que l'on possède, car ce serait livrer soi-même sa bourse à des aigres fins qui n'hésitent actuellement que sur le procédé à employer pour la voler. Enfin, quelle garantie nous offre cette autorisation en admettant qu'on l'accorde, puisqu'il suffira d'un simple décret pris en Conseil des ministres pour l'annuler?
Nous devons fournir aussi la liste des membres de la communauté, mentionnant leur nom patronymique ainsi que le nom sous lequel ils sont désignés en religion, leur nationalité, leur lieu de naissance, leur âge, la date de leur entrée. C'est la surveillance de la haute police abrogée par les malfaiteurs et rétablie par les moines. Il n'y manque que la fiche anthropométrique imaginée par M. Bertillon. Il y a eu là un oubli de la part de cet argousin des loges qu'est Trouillot,
observa Durtal. Espérons que le rapporteur de la loi au Sénat le réparera. D'ailleurs, fit le père hôtelier, le règlement d'administration publique, annoncé par l'article 20, pourra encore aggraver, par des interprétations judaïques, l'infamie de cette loi.
Vous pouvez vous y attendre, dit M. Lampre.
Il n'y a pas à se leurrer, reprit le père abbé. La congrégation de Solesmes ne consentira pas à subir le supplice de ce carcan. Donc, en supposant que le Sénat vote la loi dès la rentrée des vacances, et il le fera certainement, cela nous met au mois de juin,
et dès lors, il nous reste 6 mois pour nous retourner. Par conséquent, en décembre au plus tard, nous ne serons plus ici.
« Et où irez-vous, mon révérendissime ?» demanda Durtal.
« Je l'ignore. La Belgique est le pays le plus proche, et la vie n'y est pas onéreuse. C'est la dernière nation catholique où la meute des francs-maçons soit encore muselée. Si, comme cela est certain, l'assemblée des abbés de l'ordre ordonne le départ pour l'exil, je commencerai, aussitôt revenu de Solem, des recherches.
« Oh, il faudrait d'abord savoir si les ministres appliqueront la loi, » dit le curé.
« Comment s'ils l'appliqueront ? » s'exclama Durtal. « Vous croyez que ces mécréants sont arrivés à ce résultat si longuement, si habilement préparé depuis tant d'années pour le lâcher ? Vous les prenez vraiment pour plus bêtes qu'ils ne sont. Soyez tranquilles, ils iront jusqu'au bout de leurs méfaits, et ce bout ne s'arrêtera pas aux religieux, mais bien aux clergés séculiers, dont la persécution est, je vous l'assure, proche. »
L'abbé haussait doucement les épaules. S'il jugeait en son fort intérieur les cloîtres encombrants et inutiles, il estimait par contre que le prêtre était indispensable et que jamais la République n'oserait y toucher.
Et après le clergé, ce sera le tour du bourgeois. Après la curée des biens de main morte, nous assisterons au dol des valeurs vivantes.
La bourgeoisie secourra-t-elle au moins son apathie lorsqu'on forcera sa caisse ? Dit M. Lampre.
Elle s'inclinera en soupirant, et ce sera tout, répartit Durtal.
Quant aux catholiques, vous savez aussi bien que moi l'amas de sottises et de lâchetés qu'ils recèlent. Si, par exemple, il se trouvait parmi eux des gens intrépides, résolus à résister, les députés et les sénateurs du parti s'interposeraient aussitôt et ferait le jeu de l'ennemi en les désarmant.
« Mais alors, il n'y a rien à tenter ?» s'écria Don de Fauneuve.
« Non, mon père, rien. Je ne suis pas prophète, mais tenez que, pendant les événements plus ou moins périlleux qui s'apprêtent, les orateurs catholiques se remueront dans le vide. Ils feront signer de ces pétitions que tout gouvernement, lorsqu'il les reçoit, jette au panier. » Et ils prononceront de pathétiques discours dans des réunions triées avec soin pour qu'on n'y avarie pas leurs précieuses personnes.
Puis quand le moment de descendre dans la rue et de se montrer sera venu, ces pieux matamores rédigeront encore de belliqueuses protestations, tandis que nos seigneurs, les évêques, gémiront respectueusement en des phrases recherchées, ce après quoi tous se soumettront, ventre à terre, tranquilles, convaincus d'ailleurs qu'ils ont rempli leurs devoirs et qu'ils se sont vaillamment conduits.
S'il en était ainsi, ce serait à désespérer de la France.
« Je ne vois pas de raison pour n'en point désespérer, » répliqua Durtal.
« Ah non !» s'écrièrent en chœur les assistants. « Vous êtes trop pessimiste. C'est un temps à passer. Les ordres partiront en exil, c'est entendu. Nous subirons 1,93 après. C'est encore possible. » Mais il y aura ensuite une réaction, et la France se relèvera et les monastères refleuriront.
J'espère, ainsi que vous, en une réaction, répondit Durtal. Mais quitte à feindre l'oiseau de mauvais augure, je vous avoue que je ne vois pas, même après une victoire conservatrice, les moines réintégrés dans leur maison.
Il en sera pour moi de la loi des congrégations comme du concordat, que les rois très chrétiens se sont empressés de garder. C'est une arme dont aucun gouvernement, quel qu'il soit, ne voudra se dessaisir. La meilleure chance qui pourrait vous échoir serait que la loi fût si implacablement, si odieusement exécutée, qu'elle devint par cela même difficile à défendre. Peut-être alors modifierait-on les plus imprudents de ces articles. Je le souhaite. Si au contraire on l'applique placidement, doucereusement, si elle étrangle avec un lacet savonné les ordres, elle s'inscrira sans réforme, telle qu'une concession à perpétuité dans le cimetière de nos codes. C'est triste à dire, mais il faudrait du sang pour la malédifier, et le sang d'âme, c'est ainsi que l'argent, les catholiques en sont plutôt un peu chiches.
« Hélas !» s'exclama le père de Fauneuve, « j'ai grand peur que vous n'ayez cette fois raison. »
La cloche sonna, la récréation était finie, tous se séparèrent.
C'est très bien tout cela, notre ami, dit madame Bavois la Durtal, qui lui racontait la conversation de l'après-dîner. Mais si les bénédictins s'en vont, qu'est-ce que nous allons devenir ? Et Durtal ne répondant pas, « Le moment est peut-être venu, reprit-elle, de prier une des saintes que vous aimez, sainte Christine, l'admirable, que l'on invoque pour résoudre les cas difficiles. Et aussi saint Benoît, je pense, car enfin j'inaugure pour lui, et de par lui, au Val des Saints, une profession un tantinet bizarre, celle de l'oblat in extremis, celle de l'oblat de la dernière heure. Je vais me porter moi-même en terre et mener mon propre deuil. Il me semble tout de même que le bon patriarche pourrait bien me ressusciter quelque part, à l'abri du monde, je ne sais où. Je l'espère, mais en attendant ce nouvel aiguillage, voilà bien des inquiétudes sur la planche. »